Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi. Notre ami Nagi à la réalisation, toute l'équipe technique, Ilham, Mohamed également, notre ami Ahmed au digital, vous souhaite de bonnes fêtes à l'occasion de, bien sûr, vous le savez, la fête après le Ramadan. On parle, bien entendu, football dans cette émission. Le football en Afrique, vous le savez, une semaine un peu chargée avec ce qui s'est passé à Paris, le comité exécutif de la CAF qui s'est réuni. La finale retour de la Ligue des Champions sera rejouée. La date et également le lieu, l'endroit n'ont pas encore été fixés, même si on parle après la Coupe d'Afrique des Nations et on parle aussi de l'Afrique du Sud. On parlera également de la Copa América et on évoquera d'autres sujets. La Ligue des Nations en Europe, le Portugal et l'Allemagne qui se sont qualifiés, sans oublier les matchs du week-end avec notamment l'Allemagne qui sera privée de son sélectionneur. Mais d'abord dans cette première partie, avant de retrouver Simone Rovera et également Frédéric Hermel, d'abord le football en Afrique et on présentera, comme on le fait depuis le début, vous le savez, c'est le compte à rebours avant du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera le 21 juin en Égypte. Et eh bien, on présente les équipes. On a parlé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Aujourd'hui, on posera la question à Hervé Penaud à propos de l'équipe du Sénégal. Mais avant cela, retour sur ce qui s'est passé et surtout parce que hier, on a appris que le patron de la CAF, Ahmed Ahmed, a été interpellé par la police, un organisme anti-corruption. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et bien, on voit tout cela avec vous. Hervé Penaud, bonsoir Hervé.
Bonjour Hakim, bonjour à tous. Et voilà, il ne peut pas se passer un jour sans qu'il y ait un souci avec la Confédération africaine de football. Et là, ce qu'on a vécu encore cette semaine à Paris. Alors attention, il faut quand même dire qu'il est ressorti libre, même s'il avait été interpellé dans le cadre d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux usage de faux. C'est pour une histoire en fait de sponsoring entre un sponsor demandait des dédommagements, donc on ne sait pas exactement de quoi il en recourt. Ce qui est certain, c'est que même la FIFA s'est fendue d'un communiqué, je dirais, de petits soutiens, hein, parce que, en n'oubliant pas de dire, on veut faire la lumière, toute la lumière sur cette affaire, et Infantino avait déjà le mercredi, lors du congrès de la FIFA, dit, on ne veut pas d'actes de corruption dans le football mondial. Donc, voilà, on se retrouve au milieu encore d'une affaire assez étonnante, hein, qui concerne Ahmad. Alors, je dis bien, il reste innocent, hein, sur cette affaire-là. Faut surtout pas l'accuser. Mais il n'empêche que ça ajoute un élément supplémentaire à tout ce qu'on a connu ces derniers temps. Et on a l'impression qu'à 10 jours de l'ouverture de la CAF, un petit peu plus, ben, on se retrouve encore une fois en plein Capharnaüm, hein. Que se passe-t-il à la CAF? Cette institution est gérée et on se souvient évidemment des soucis avec famille qui avait attaqué la CAF auprès de la FIFA et donc il ne faut pas oublier qu'il y a cette affaire qui est pendante visiblement auprès de la FIFA avec une enquête interne après les développements et les accusations de l'ancien secrétaire général.
Le bonjour de Abdelhamid Fenneri, nos auditeurs qui, vous le savez, certains travaillent, d'autres sont en vacances. Maïl Issa, bonjour à tous, ravi de retrouver la meilleure émission sportive. Merci pour ces gentils propos. On poursuit avec vous Hervé, on va faire rapidement. On le sait, on en a parlé déjà il y a 2 jours, la finale retour entre le Wydad et l'Espérance sera rejouée. On va maintenir le résultat du match aller, un partout à Rabat, mais le match se jouera, ça sera après la Coupe d'Afrique des Nations dans un endroit qui reste à déterminer, même si plusieurs sources parlent de l'Afrique du Sud.
On ne sait pas du tout dans quel état seront ni les équipes, quels seront les effectifs, les états de forme, enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais surtout, c'est une décision qui pourrait faire jurisprudence d'une certaine manière et qui est très dangereuse pour l'avenir du foot africain. Car, bien entendu, dans la foulée, l'Espérance de Tunis a annoncé son intention d'aller devant le TAS, puis d'aller devant la FIFA pour ne pas avoir à rejouer cette finale. Sur quel texte se base-t-on pour dire finalement qu'on ne pouvait pas la jouer? Alors, est-ce que c'est l'utilisation du VAR? Le VAR qui ne fonctionnait pas? Mais le VAR qui ne fonctionnait pas ne fonctionnait pas dès le début. Et c'était lié surtout à la société qui a mis en place ce VAR. Donc ça n'a rien à voir visiblement avec les dirigeants tunisiens. Et alors après, Ahmad a expliqué qu'il s'est senti en insécurité, qu'il a eu des problèmes là-bas. Mais enfin, ce qui paraît assez surprenant, c'est qu'il a fallu attendre autant de temps pour savoir tout ça. Donc aujourd'hui, cette décision pose évidemment beaucoup de problèmes et pourrait entraîner aussi d'autres nouvelles décisions, parce qu'on ne va plus s'arrêter sur ça. Hein, bientôt, on va aller encore plus loin dans toutes les prises de décision et pourquoi pas rejouer un match pour ci ou pour ça. Donc il va falloir voir comment ça va se passer sur le terrain judiciaire. Et une nouvelle fois, la CAF se retrouve au centre de soucis qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelque temps, quand Hamad avait expliqué qu'il changerait toute la gouvernance de cette organisation, de cette confédération africaine de football. Bah, visiblement, pour l'instant, ça fonctionne mal. Et un mot, évidemment, Hakim, sur cette nouvelle donne de la finale de la Ligue des champions africaines, qui ne sera plus jouée sur des matchs aller-retour, mais qui sera jouée sur un seul match sur terrain neutre. Alors attention, ça, j'ai bien peur, et j'espère me tromper, que ce soit la fausse bonne idée, parce que le problème, justement, du football africain, c'est qu'en général, dans les pays où ne jouent pas les équipes qui se retrouvent en finale, il y a un engouement qui est souvent très limité. Imaginez le match entre l'Espérance et le WAC qui va se jouer, apparemment, qui ça pourrait se jouer en Afrique du Sud. Je ne suis pas du tout certain que le stade sera plein. Et donc ça, c'est un vrai souci. Et c'était la spécificité de faire des allers-retours, justement, pour assurer un public nombreux dans les stades. Donc j'espère que cette idée a été pensée et repensée. J'en suis pas certain.
Voilà donc pour la CAF et ce match à rejouer. Une dernière question rapidement, puisqu'on parlait de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle aujourd'hui, puisqu'on présente chaque jour une équipe. Eh bien, on a parlé du Sénégal qui fait partie des favoris, la Côte d'Ivoire. Et surtout aujourd'hui, on parle du tenant du titre avec un sélectionneur néerlandais, Clarence Seedorf, ancien joueur du Real Madrid. Il y a 2 ans, le Cameroun était arrivé, on va dire, sur la pointe des pieds. Et il est reparti avec le trophée.
Cameroun, ça a été l'équipe surprise hein. Il y a 2 ans. Personne n'imaginait le Cameroun s'imposer. Ils avaient eu une pléiade de forfaits avant la compétition. Plein de joueurs n'y étaient pas allés parce que leur club respectif leur avait demandé de rester. Je pense notamment, par exemple, à Onana, hein, qui sort d'une saison magnifique avec l'Ajax. Il avait préféré rester dans son club néerlandais pour s'assurer une place de titulaire plutôt que de partir et de la perdre assurément. Hein. Donc le Cameroun, eh ben, je veux dire d'une certaine manière, ils arrivent dans cette CAN alors qu'ils devaient l'organiser, n'oublions pas, eh ben, un peu dans le même état d'esprit. Ce n'est pas une équipe qui sur le papier est la plus impressionnante, la plus forte individuellement. Ils ont quelques individualités de bon niveau, mais tout va se jouer sur la notion collective. Et est-ce que Seedorf sera capable, parce que là ça va être un vrai test pour lui, de fédérer justement autour de lui, de gérer un peu cette notion collective de l'équipe des Lions Indomptables, ce qu'avait parfaitement réussi Hugo Broos, alors qu'avant le début de la compétition, rappelons-nous, il avait été vilipendé, ça avait été absolument incroyable les attaques contre lui. Donc aujourd'hui, cette équipe du Cameroun va s'en remettre à des joueurs, bon, on pense à Choupo-Moting, on pense à Bassogog qui avait été élu meilleur joueur de la dernière CAN, quelques joueurs de bon niveau, Onana dans les buts sera là, mais il n'y a pas d'axe très très fort. Donc, wait and see avec les Camerounais, car il ne faut jamais rayer de la carte les joueurs camerounais toujours capables de créer des surprises.
Le Cameroun, le vainqueur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 21 juin en Égypte. Merci beaucoup Hervé Penaud, notre monsieur football Afrique, football mondial même. Et à vendredi, plutôt à lundi prochain. Il nous reste, on va dire, 16 minutes à passer ensemble dans cette première partie. On va s'intéresser au football en Italie et en Espagne. En Espagne, ça fait plusieurs jours qu'on parle de l'arrivée de Hazard, l'international belge de Chelsea. Ce n'est pas encore fait. Il y a également d'autres mouvements. Il y a la sélection espagnole qui joue, vous le savez, ce sont les éliminatoires de l'Euro. Et le capitaine qui pourrait entrer dans l'histoire, Sergio Ramos, le capitaine du Real, et également de la sélection qui ne cesse de marquer aussi et de porter ce maillot de la sélection espagnole. Frédéric Hermet, notre monsieur football espagnol, est avec nous. Bonsoir Fred.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
Simone Rovera, notre monsieur football italien, est également avec nous, avec peut-être une nouvelle à propos de Buffon, le gardien italien qui quitte le Paris Saint-Germain. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Bien sûr, le plus grand gardien de l'histoire du football, au moins, ça c'est mon avis, va continuer à jouer, mais je vous raconte tout. Dans quelques minutes.
Un petit tour, puis s'en va. Une petite année, puis il s'en va. Et bien, finalement, Buffon n'a pas réussi son passage du côté du Paris Saint-Germain. On rappellera que l'équipe avait été éliminée en 8e de finale par Manchester United. C'était le trophée fixé, l'objectif par les responsables, les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et il se trouve, manque de chance, ce jour-là, c'est surtout le match retour. Et bien, c'est Buffon qui était dans les buts. Et cela a conditionné plusieurs décisions des responsables. Également du gardien italien Simone.
Bah oui, c'est vrai, tu as dit la vérité. La saison de Gigi Buffon vient d'être jugée sur un match parce que, au-delà de tout ce que on peut écrire, on peut dire sur ce qu'il a fait en championnat, c'est ce match en Ligue des Champions, cette erreur sur une frappe des Rashford et les buts de Lukaku qui a décidé l'avenir des Buffons. Moi, je vous raconte quelques histoires que j'ai connues pendant la saison, jusqu'à au mois de février, début mars, avant cette maudite élimination. Gigi Buffon était considéré indiscutable numéro un par Tuchel, par les dirigeants du PSG. Il faisait des comparaisons en disant aujourd'hui Buffon, c'est les plus forts. Donc, qu'est-ce que ça change un match? Bah, ça change la considération d'une saison. À moitié de saison, Buffon était encore le gardien qui avait fait le pourcentage majeur d'arrêts en Ligue 1, donc une saison qui était positive en Ligue des Champions et en Ligue 1. Et après, cette erreur qui change tout. Et je pense que dans la tête de plusieurs personnes au PSG, c'était une vraie chance d'avoir quelqu'un à qui donner la faute de l'élimination en bouc émissaire. Parce que c'est pas seul Gigi le seul qui est passé à travers sur ces matchs, mais c'est le seul qui va payer très cher. On se souvient que Kerrer a fait une grave erreur. Mbappé, il est tombé quand il était tout seul devant un gardien. Mais on considère que c'est Buffon qui devait faire gagner la Ligue des Champions à Paris. Il ne l'a pas fait gagner. Et donc, c'est lui qui va partir. Voilà, c'est comme ça qu'il décide aujourd'hui les Paris Saint-Germain avec ses dirigeants. Moi, j'espère pour le bien de ce club de voir arriver à nouveau Leonardo parce qu'il ferait beaucoup de bien.
Simone, il y a une question. Mamadou Keïta, il quitte le PSG pour aller où? Juste une phrase.
Bah, il a différentes options. Moi, je sais qu'un club qui a fait une offre très importante, c'est Fenerbahçe en Turquie. Lui voudrait rester quand même dans un club qui joue en compétition européenne. Je crois qu'il va refuser les pistes de la Chine. On me parle d'une proposition qui arrive de son coéquipier, ancien coéquipier Fabio Cannavaro, aujourd'hui entraîneur au Guangzhou. Il y a une piste très très séduisante qui est celle de l'Atalanta, qualifiée en Ligue des Champions et qui voudrait une joueur d'expérience pour cette compétition européenne. Moi, je pense que Gigi Buffon va rester en Europe et je pense aussi qu'on le verra jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.
Selon plusieurs sources, l'affaire devait être officialisée mercredi dernier, l'arrivée de Eden Hazard de Chelsea au Real Madrid. Pourquoi ça traîne, Fred? Frédéric Hermel, notre consultant
Ah, oh, mais ça va. Je n'arrête pas de rafraîchir mon écran de. Oui, vous m'entendez?
Oui, là, on
Vous
t'entend bien.
m'entendez?
Oui, parfaitement.
Je dis ça parce que je n'arrête pas de toucher à mon téléphone portable puisque je rafraîchis continuellement la page du Real Madrid pour voir l'annonce officielle de Hazard. On me dit que ça devrait tomber dans les prochaines heures. Voilà. Dans les prochaines minutes, voire dans les prochaines heures. L'accord est total entre le joueur et le Real, mais ça faisait longtemps. Avec Chelsea, il y a simplement des petites négociations qui restaient sur les modalités de paiement. Est-ce que Kovacic, qui je vous rappelle a été prêté au club anglais, va entrer dans l'opération? Voilà, on parle de détails, mais je peux vous dire que Hazard va être joueur du Real Madrid. À tel point que déjà dans le magasin officiel de maillot du Real Madrid à l'aéroport de Barcelone, on vend déjà le maillot officiel de Hazard de la saison prochaine avec le numéro 7 dans le dos.
L'aéroport de Barcelone, dit Fred.
De Barcelone,
Ah, bah d'accord,
oui,
ok.
parce qu'il y a beaucoup de supporters du Real Madrid à Barcelone et il y a une boutique du Real et des photos ont circulé. Le journal Marca a vérifié, a appelé la boutique. On dit oui, nous avons déjà bien mis ce maillot. C'est le nouveau maillot qui a été présenté ces dernières heures, qui est blanc avec des lettres dorées, le nom, le numéro en doré, en couleur or et le maillot de Hazard avec le numéro 7 est déjà affiché, quoi, est déjà en vente.
À
Donc voilà,
propos de maillot, Fred, à propos de maillot, on a vu les joueurs qui posaient avec le maillot. Il y avait des joueurs comme Isco, comme Gareth Bale, Keylor Navas aussi, le gardien. Et pourtant, par exemple, ces trois joueurs sont annoncés partants.
Oui, alors ça, c'est vraiment un détail parce que ce n'est pas la première fois que des joueurs qui allaient quitter le club ont été photographiés au Barça, au Real, enfin partout, voilà. Il n'y a pas de lien direct entre les deux entre le fait que qu'un joueur soit sur le départ et qu'il fasse la photo avec le sponsor officiel maillot. Non, ça ne veut rien dire. Parce que je vous confirme que Bale va pas rester, hein, ça, et que Isco, ça va être compliqué, et que malheureusement, Keylor Navas, s'il veut être titulaire quelque part, il va devoir quitter le club merengue, puisque c'est Courtois qui a été choisi.
Voilà donc pour le Real Madrid, on va y revenir dans un instant, mais retour en Italie, on a évoqué tout à l'heure bien sûr l'ancien gardien international de l'Italie, Buffon, qui quitte le Paris Saint-Germain après avoir passé un an seulement du côté de la capitale française. Et il y a un autre transfert, une autre arrivée qui se fait attendre, celle de Maurizio Sarri, l'entraîneur italien de Chelsea. Il vient de remporter l'Europa League, il est annoncé depuis quelques jours déjà du côté de la Juve, mais là aussi ça ne se fait pas. Simone.
Mais oui, parce que il y a un discours économique aussi compliqué qu'il faut régler. Maurizio Sarri, il est sous contrat avec Chelsea, il a encore 2 ans de contrat. Le club anglais, oui, il est ouvert à se séparer de lui parce que les choses ne sont pas très bien passées. Mais quand même, aujourd'hui, sa cote sur le marché international a augmenté avec cette victoire en Ligue Europa. Donc, pourquoi devoir libérer gratuitement un entraîneur qui gagne, surtout quand il y a certains joueurs que la Juve regarde de côté Chelsea. Donc, ils sont en train de trouver des accords entre clubs pour faire en sorte qu'au-delà de Sarri, un joueur de Chelsea, ça devrait être le latéral gauche italo-brésilien Emerson Palmieri, quitte Chelsea pour arriver à la Juve. Et ça rappelle un peu la longue négociation qu'il y avait eu la saison dernière pour les passages de Sarri de Napoli à Chelsea, avec l'arrivée dans ses valises, dans ses poches, d'un certain Jorginho. Donc c'est pas étrange, mais la Juve, même si en Italie on continue à répéter qu'attention, il y a un autre plan A, que Sarri c'est un plan B, et qu'il y aurait un grand entraîneur dans les rêves de André Agnelli. Bien sûr, on parle aussi de Guardiola, de Pochettino. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, Sarri elle est vraiment très proche. Même un pré-contrat aurait été déjà signé. Et donc, dans quelques jours, laissons passer le week-end. Début de la semaine prochaine, on devrait avoir les nouveaux entraîneurs de la Juve. Parce que ça fait 20 jours que la Juve n'a plus d'entraîneur. C'est incroyable.
On parle de la Ligue des Nations, bien sûr, ça sera dans la deuxième partie avec Aurélien de Vernoy et également, eh bien, on posera la question à David Lortolari, mais il y a également les éliminatoires de l'Euro avec l'Italie qui affronte la Grèce et également la sélection espagnole qui joue un match à sa portée. Mais là, déjà, il y a le terrain, les joueurs et les responsables se sont plaints un peu de la qualité du gazon synthétique. Mais on veut surtout parler, Fred, d'un joueur, Sergio Ramos, le capitaine du Real, de la sélection espagnole, qui a un palmarès impressionnant et surtout il bat plusieurs records chaque semaine, chaque année, on va dire, chaque sortie de la sélection de la Roja.
Bah oui, parce que c'est vrai que Ramos a bénéficié du fait qu'il est entré très jeune dans cette Roja. Je vous rappelle qu'il jouait latéral droit. Que quand il devient champion du monde, il n'est pas défenseur central, mais il est latéral droit. Il bénéficie du fait qu'il a joué beaucoup de matchs, parce que l'Espagne, comme l'Espagne gagnait tout, gagnait 2 fois l'Euro, 1 fois la Coupe du Monde, et ben automatiquement, quand on passe tous les tours, les huitièmes, les quarts, les demi, les finales, ben on joue plus de matchs que les autres. Donc il est en train de battre tous les records, mais c'est quelqu'un qui est vraiment patriote, ça aussi, on le reconnaît. Alors on sait qu'il a beaucoup de défauts, on l'évoquait l'autre jour, bon, ses stratégies pour se faire augmenter au Real n'ont pas beaucoup plu aux supporters merengues, mais voilà, c'est un Andalou, très fier d'être Andalou, très fier d'être espagnol, il représente vraiment l'amour de la patrie, et c'est quelqu'un qui est très aimé, et puis c'est un capitaine, c'est un vrai capitaine. Voilà, moi, au-delà des records, parce que Casillas a battu plein de records, mais Casillas n'était pas vraiment un capitaine, dans le sens où ce n'est pas quelqu'un qui était très collectif, qui s'occupait des problèmes des autres dans le vestiaire, qui dirigeait le groupe. Ramos l'a toujours été, et c'est ça, et il est toujours, et c'est ce qu'on aime chez lui. D'ailleurs, même ce soir pour le match contre sur la pelouse des îles Féroé, ça vient de tomber, il est titulaire. alors qu'il revient de six semaines de blessure, que c'est un terrain synthétique, donc c'est parfois un petit peu plus dangereux. Mais bon, il faut qu'il soit là parce qu'il doit être le leader de cette sélection espagnole, même quand le match n'est pas très intéressant. Voilà. Moi, j'aime ça de Ramos.
Les îles Féroé pour l'Espagne, il a un match également, mais difficile pour l'Italie. L'Italie, on le sait, grande absente de la dernière Coupe du Monde et en pleine reconstruction. C'est un match important, Simone, pour la sélection italienne. Rapidement, Simone.
C'est un match, oui, qu'il ne faut pas rater. On sait très bien que cette Italie est partie bien, avec des bons résultats, avec un jeu séduisant. Une Italie qui va jouer en Grèce avec la blessure de Donnarumma, ça va être Salvatore Sirigu, le titulaire, presque une revanche pour lui avec tout ce qu'il avait passé dans ces dernières années. Et attention, c'est une Italie qui va avoir beaucoup de joueurs de talent, Chiesa, Insigne, Bernardeschi, Verratti et Jorginho au milieu de terrain. Donc Mancini reparte avec ses points forts, les jeux et les jeunes. Et je pense que même sur un match difficile, on va voir une Italie avec du caractère et probablement un beau jeu et j'espère une belle victoire.
Rapidement, l'entraîneur de la Roma s'est décidé, il s'est fait Simone.
Si, c'est Paolo Fonseca, ancien entraîneur du Shakhtar. Là aussi, il a été long, il faut les négocier. Et la Roma a payé une clause des sorties. C'était 5 millions prévus dans les contrats avec les Shakhtar Donetsk. La Roma a réussi à négocier à 2. Et donc, c'est fini pour Ranieri, on savait. Et les nouveaux projets partent avec un entraîneur jeune, ambitieux, et portugais, qui travaille beaucoup avec les jeunes. C'est avec ces visages que la Roma va chercher de commencer une saison où doit oublier cette saison qui était vraiment catastrophique. Catastrophique sur les résultats, sur les jeux et sur les ambitions du club de la capitale italienne.
Merci beaucoup Simone Rovera, notre consultant pour le football italien. Et on attend toujours, comme le disait tout à l'heure Fred, l'arrivée d'Eden Hazard, l'international belge qui devrait quitter Chelsea pour atterrir du côté du Real Madrid. Merci beaucoup Fred, merci Simone. Dans un instant, la deuxième partie, on ira en Angleterre et également en Allemagne. A tout de suite. La deuxième partie de l'avant-match, on va parler du football en Angleterre, en Allemagne, les Pays-Bas également, qualifiés pour la finale de la Ligue des Nations après une victoire face à l'Angleterre. Le Portugal, le pays organisateur, a pris le meilleur de son côté sur la Suisse avec un triplé de Cristiano Ronaldo. On profite pour passer le bonjour à tous nos auditeurs, Mohamed Aïtali, Brada Erdouan, Kaka qui passe le bonjour à tout le monde et puis Mal Issa. Pas beaucoup de temps, certes, juste à propos de nos auditeurs au Mali, à Bamako. On signale à Malissa que nous avons une antenne Afrique, bien entendu, et que toutes les informations africaines, sportives notamment, eh bien, sont traitées, les rendez-vous sportifs, pas que du football d'ailleurs. Retour donc à l'avant-match et on revient sur la Ligue des Nations avant d'évoquer le programme. Vous le savez, on le disait tout à l'heure avec Hervé, avec Fred et avec Simone, les îles Féroé face à l'Espagne, la Grèce qui affronte l'Italie, c'est bien entendu des matchs du championnat d'Europe et également il y a l'Allemagne qui joue une équipe rajeunie et on parlait également la semaine dernière de l'absence du sélectionneur qui reprend tout doucement après des problèmes de santé. On accueille d'abord nos consultants David Lortolari pour l'Allemagne. Bonsoir David.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
Et également Aurélien de Vernoy. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir David, bonsoir à tous.
Et bien entendu, on parle football européen. Oussama Hanich qui passe le bonjour et demande des nouvelles du FC Barcelone. Pour l'instant, c'est le calme plat en quelque sorte. Beaucoup de noms circulent et bien entendu des départs également. Mais pour l'instant, rien n'est officiel. Le Barça qui a terminé très mal la saison après cette élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Également la défaite en finale et pourtant, pour d'autres équipes, vous allez peut-être nous le confirmer, David et Aurélien, pour une équipe qui remporte le championnat à domicile et qui arrive en finale de la Coupe et perd en demi-finale, c'est quand même une bonne saison. David et ensuite Aurélien, rapidement.
Oui, absolument. On est d'accord, mais souvent, avec les contraintes d'aujourd'hui, les réactions à chaud, l'emballement aussi bien médiatique que celui sur le plan du business, sur l'emballement aussi qui est activé, qui est augmenté, qui est aggravé par la pratique des réseaux sociaux. Je divague un peu, mais c'est ça. Les décisions se prennent parfois sans lucidité, sans recul, alors que avec quelques jours, quelques semaines d'analyse, on prendrait des décisions différentes. C'est comme ça. C'est comme ça. Et oui, on peut s'en plaindre. Mais quelque part, ça me surprend pas plus que ça, Hakim.
Voilà. Aurélien, rapidement.
Oui, c'est toujours pareil. C'est un peu les défauts du football moderne où on laisse souvent peu de temps aux techniciens pour vraiment mettre en place des équipes, surtout dans des équipes dont on attend des résultats chaque année excellents. Après, toutes les équipes ne peuvent pas remporter chaque année la Ligue des Champions, le championnat, les coupes. C'est en plus il y a des cycles de joueurs, de formes. C'est forcément injuste hein, quand on se fait virer après avoir gagné un championnat en plus très largement. C'est dommage. Je pense que c'est dommage. Après voilà hein, les grandes équipes.
Dommage.
Toujours le moyen de rebondir et de se réinventer. Quoi.
De toute façon, le Barça, sur les 11 dernières saisons en championnat d'Espagne, 8 titres de champion, c'est quand même impressionnant. On parle de la Ligue des Nations, c'est un tournoi qui se déroule actuellement. Vous le savez, un tournoi, il y a eu des éliminatoires. Là, c'est le tournoi final, 4 équipes ont atteint le dernier carré. La première demi-finale a tourné à l'avantage du pays organisateur grâce à Cristiano Ronaldo. On en parlait lundi et dernier, il a réussi un triplé face à la Suisse, 3 buts à 1, qualification pour la finale. Et en finale, eh bien, le Portugal sera opposé aux Pays-Bas, les Pays-Bas qui ont pris le meilleur sur l'Angleterre. On va parler des Pays-Bas dans un instant avec David, on l'évoquait aussi lundi dernier. Mais d'abord, Aurélien, l'Angleterre qui a mené au score et ensuite a fait des cadeaux. Est-ce qu'on peut parler des cadeaux, d'erreurs? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Non, je pense qu'on peut parler d'un niveau défensif pas à la hauteur de l'enjeu, tout simplement. Et c'est pas une nouveauté du côté de l'équipe d'Angleterre. Ça s'était pas trop vu lors de la Coupe du Monde, parce que finalement l'Angleterre avait pas été confrontée à des équipes sur des dynamiques extrêmement fortes offensivement, sauf contre la Croatie en demi-finale. Et là, face à ces Pays-Bas qui a probablement l'une des meilleures générations de son histoire, qui sort avec l'Ajax d'une saison extraordinaire. Voilà, quand on voit le niveau notamment de Frankie de Jong, ce qu'il a montré sur ce match, on parlait de Barcelone, je pense que ça c'est une sacrée recrue pour Barcelone. Quand on voit ce que sont capables de faire par exemple un Memphis Depay qui est pas toujours très performant à Lyon, mais qui en équipe nationale est incroyable. Je crois qu'il est impliqué sur 23 buts sur ses... sur ses 10 ou 15 derniers matchs en sélection. Enfin, c'est incroyable le rendement qu'il a. En face, cette défense de l'équipe d'Angleterre est peine un peu, je trouve. Maguire, Stones, la défense centrale, c'est pas extraordinaire dans l'absolu. Là, ils étaient sur une fin de saison, on les a sentis en plus fatigués. C'était un peu la même chose pour Kyle Walker, le latéral droit de Manchester City. Et à ce niveau-là, quand on a en face des jeunes joueurs qui en veulent, ça pardonne pas. Il y a eu des erreurs, notamment 2 erreurs de John Stones qui entraînent les 2 buts en prolongation. Je pense que l'Angleterre a un bon sélectionneur, a un bon système de jeu, a des bons joueurs et des joueurs prometteurs, parce que par exemple on a vu Rashford et Sancho qui ont été encore très bons hier soir. Mais en défense, il y a encore des choses à construire. Il faut trouver un patron de la défense. Les Pays-Bas l'ont avec Virgil van Dijk. Et le problème, c'est que l'Angleterre n'a pas ce patron-là en défense.
Voilà donc pour l'Angleterre. Côté Pays-Bas, eh bien, on a vu, et Aurélien en parlait à l'instant, et même la presse espagnole a écrit ce matin s'il y a un joueur qui devrait s'inquiéter après la performance de Young, le milieu terrain de l'Ajax d'Amsterdam que vient d'engager le Barça, c'est bien Busquets. La sélection néerlandaise a confirmé tout le bien qu'on pensait depuis quelque temps déjà de cette équipe, David.
Oui, tout à fait, Hakim. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec l'analyse qu'a développée Aurélien aussi sur l'Angleterre, avec des joueurs, Maguire et Stones, qui pour moi ont affiché là un niveau insuffisant, footballistique insuffisant sur le plan international. Côté néerlandais, c'est ce à quoi on peut s'attendre. C'est-à-dire des erreurs de jeunesse encore, que les Néerlandais ont pu commettre, même encore dans un match comme ça. Mais alors à côté de ça, 30 dernières minutes beaucoup plus fraîches, et quelque part c'est implacable, et ça correspond à l'état actuel physique de cette équipe, c'est-à-dire une vraie jeunesse, une vraie fraîcheur, avec la maturité des joueurs que vous avez cités. Et pour moi, les Pays-Bas ont logiquement accédé à la finale. Ils sont susceptibles de subir des revers, comme récemment c'était le cas face à l'Allemagne, mais ils ont été capables, avec leur virtuosité, leur technique, leur allant physique aussi hier, de dominer cette équipe d'Angleterre. Et pour moi, c'est un score à l'arrivée, au bout des prolongations, qui est logique, et une accession à la finale qui est conforme à leur niveau du moment.
On va revenir dans un instant chez David pour évoquer la sélection allemande, une équipe rajeunie qui va affronter la Biélorussie. Mais avant cela, l'Angleterre, on veut évoquer un joueur qui est resté très longtemps cette saison, en tout cas la fin de saison, éloigné des terrains en raison de blessures. Il a brillé pendant la dernière Coupe du Monde. Harry Kane, le joueur de Tottenham, le capitaine de la sélection anglaise. Comment on a trouvé sa prestation? Il revenait de blessure, on l'a vu en finale, en demi-teinte un peu. Et là aussi, ensuite, après la défaite en finale, il vient de perdre une demi-finale. C'est pas bon pour le moral, en tout cas pour un joueur qui est, même s'il est bien à Tottenham, mais il est quand même courtisé par plusieurs équipes européennes, Aurélien.
Harry Kane, c'est un peu un mystère. Alors que là, il ne soit pas très performant sur que ça soit la finale de la Ligue des Champions, cette demi-finale de la Ligue des Nations, c'est pas forcément très étonnant parce qu'il a été arrêté quasiment 2 mois, il manque de rythme. Je pense qu'il est aussi un petit peu fatigué parce qu'il a beaucoup enchaîné entre la Coupe du Monde et après le parcours européen de Tottenham, le parcours en championnat, parce qu'il faut savoir que Tottenham était encore en course quasiment pour le titre jusqu'à janvier, février. Voilà, c'est un peu normal qu'il ne soit pas au top de son rythme et de sa forme. Après, moi, je me pose des questions sur Harry Kane parce que, certes, des équipes s'intéressent à lui, mais on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment envie de bouger de Tottenham. Il est bien à Londres, c'est son club formateur. Et vous savez, les Anglais ont un peu de mal à prendre des risques et à partir à l'étranger, surtout quand ce sont des joueurs confirmés. Parce qu'il y a eu des expériences très mitigées. On pense notamment en termes d'attaquant à Michael Owen qui s'était un peu perdu au Real Madrid. Harry Kane, je pense, se pose des questions à ce niveau-là et ça va peut-être jouer sur sa décision de rester ou pas à tout le moins à Tottenham ou en tout cas dans le championnat d'Angleterre parce qu'il pourrait avoir aussi des prétendants en Première Ligue. J'ai du mal à vous dire si ce joueur serait prêt vraiment à prendre ce risque et aller se mesurer à un championnat d'Espagne ou à un championnat d'Italie ou d'Allemagne. Il ne viendra pas en Ligue 1, ça c'est à peu près sûr. Voilà, c'est pas un problème de talent, ça c'est certain, parce que je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de qualités, qui est capable de marquer des deux pieds, de la tête, qui a vraiment en plus qui est un type d'attaquant qui n'existe pas beaucoup aujourd'hui en Europe, qui a vraiment des capacités à la fois d'ouvrir des espaces, de faire des appels, d'être bon dans la surface. Mais voilà, il y a cette espèce de petit complexe du joueur anglais qui fait que je ne sais pas s'il va se lancer sur un challenge à l'étranger, sauf qu'il faudrait qu'il le fasse maintenant parce qu'après, ce sera trop tard.
Une question de Badr à propos, il dit la question qui brûle les lèvres, qu'est-ce qui se trame au sein de la CAF, la Confédération africaine de football? On a évoqué ce sujet tout à l'heure dans la première partie avec Hervé Penaud, mais ce qui est sûr, c'est que certaines commissions devraient être dissoutes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, celle de l'arbitrage notamment. Eh bien, des problèmes au sein d'une confédération, ça a été toujours le cas par le passé, ça se poursuit, mais pour l'instant, la Confédération africaine de football vise surtout la Coupe d'Afrique des Nations et veut réussir ce tournoi, la fête du football africain qui débute le 21 juin. Ça sera dans 2 semaines et ça sera en Égypte. On revient vers David. Les éliminatoires de l'Euro, une sélection allemande rajeunie. On le rappelle, la sélection allemande a déçu lors de la dernière Coupe du Monde. Il y a des cycles comme ça. C'est l'occasion de repartir, on ne va pas dire de zéro. C'est un éternel recommencement. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous important pour cette sortie.
Exactement, Hakim. Et alors, les choses sont assez simples factuellement. On s'est fixé pour le match contre la Biélorussie samedi, puis pour le match contre l'Estonie qui doit être mardi. 3 plus 3, 6 points. Ça, c'est l'objectif et ça, c'est conforme à l'assurance qu'on a toujours affichée dans cette Mannschaft. Et deuxièmement, effectivement, on est en plein mix entre cet élan, de ce souffle de jeunesse, notamment le sélectionneur intérimaire Markus Zorc qui va diriger de fait son premier match international, puisque Joachim Löw se repose après son court passage à l'hôpital.
Hôtel de repos.
Et donc on veut arriver à mixer maintenant avec succès la présence des jeunes. On va en citer un seul, Serge Gnabry, qui est en train de s'affirmer au Bayern et qui veut trouver sa place aussi en sélection. Et on pourrait en citer d'autres. Et puis aussi s'appuyer sur quand même l'expérience des grands cadres. Manuel Neuer a été confirmé dans les buts, par exemple, et Marco Reus veut aussi, s'il est en paix avec ses pépins physiques passés, veut aussi s'affirmer comme le meneur, le leader de l'attaque. Donc ce sont deux joueurs, l'un qui est proche de la trentaine, l'autre qui a dépassé les 30 ans, qui veulent encadrer les jeunes. Et on veut s'appuyer sur cette base et sur ce mélange entre deux générations, si on peut dire, pour réussir à court terme les succès pour les deux prochains matchs, et puis pour les échéances plus importantes qui arrivent derrière.
Voilà donc pour la sélection allemande et son rendez-vous. Retour en Angleterre, une question d'une façon générale. On l'a vu, la sélection anglaise, il y a un an, avait atteint le dernier carré lors de la dernière Coupe du Monde en Russie. La demi-finale de la Ligue des Nations, avec un match de classement à disputer ce week-end. Et puis, quatre équipes en finale, l'Europa League et la Ligue des Champions. C'est quel bilan peut-on faire du football anglais, même si la sélection, le niveau, bien sûr, ne reflète pas celui des équipes et vice-versa, Aurélien?
Alors, certes, c'est vrai que les clubs mondialisés de la Première Ligue, avec des stars venues de toute la planète, laissent des fois pas beaucoup de place aux joueurs anglais. Mais malgré tout, il y a des efforts qui sont faits en ce sens. Et d'ailleurs, regardez les équipes de Liverpool et de Tottenham. Alors, plus Tottenham que Liverpool, mais il y a quand même des joueurs anglais qui se sont fait leur place comme titulaires et qui, du coup, peuvent amener cette expérience des joutes européennes de clubs avec la sélection nationale. Et je pense que ça va continuer à amener finalement une certaine assurance, une certaine expérience à la sélection nationale. Après, c'est vrai qu'il va falloir pour Gareth Southgate être capable d'identifier ceux qui à la fois vont être les cadres pour l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022, et ceux qui vont être, on va dire, ceux qui vont assurer finalement l'avenir de cette sélection. Et là, il y a vraiment des questions qui se posent, parce que finalement, chez les très jeunes joueurs, à part peut-être Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, il n'y a pas eu une émergence de joueurs décisifs sur les lignes défensives, j'en parlais tout à l'heure, et même encore au milieu de terrain, où je pense qu'il y a vraiment des talents à développer du côté de la Première Ligue pour les faire monter en sélection nationale. En attaque, il y a du monde, ça c'est pas un très gros problème. Je pense que Rashford, Sancho et même Harry Kane a encore quelques belles années devant lui. Il faut trouver vraiment ces leaders défensifs et au milieu de terrain. Jordan Anderson, qui est capitaine par alternance, on va dire, a pas non plus beaucoup d'années de compétition devant lui. Il faut trouver voilà ces pépites qui vont permettre de réussir une transition générationnelle pour les trois prochaines années.
Une dernière question, David, on le sait, la Coupe du Monde féminine débute ce soir en France. Le pays organisateur affronte la Corée du Sud en match d'ouverture. La France fait partie des favoris. On parle surtout des États-Unis, mais côté européen, il y a la France, il y a l'Angleterre et il y a également l'Allemagne, David, rapidement.
Ah oui, et je peux vous dire que c'est le gros du flux médiatique dans la presse allemande ces dernières heures. Vraiment, on est au chevet médiatique de cette équipe d'Allemagne, parce que oui, elle fait partie des favoris derrière les États-Unis, mais elle n'est pas très sûre d'elle et elle n'a pas eu une préparation optimale. Donc on est un peu inquiet en Allemagne, on est très exigeant avec l'équipe féminine, on veut le titre chaque fois. Et là, on est un peu circonspect dans la presse. On va voir avec le premier match si les joueuses sont capables de se libérer et d'être plus fortes qu'elles n'ont été dans les matchs de préparation.
Rapidement, pourquoi on n'est pas sûr de l'équipe allemande, David ?
Eh bien, parce qu'il y a eu quelques remous, l'entraîneur a changé, il y a eu une période un peu traumatisante récemment, après les succès européens et mondiaux des années 90 et début 2000. Et on a été dans une période moins stable avec des changements, avec un entraîneur, Celia Cezic, qui n'a pas donné satisfaction. Et puis, on a perdu aussi des légendes, comme l'attaquante Birgit Prinz, qui n'a pas été réellement remplacée. On a beaucoup de talent et de qualité structurelle dans le football féminin allemand. Mais est-ce que ça va suffire pour battre les toutes meilleures sélections actuelles? On a vraiment des doutes parce qu'aujourd'hui, il y a un renouvellement, il y a des postes qui sont un peu moins sûrs que par le passé. Et il y a une incertitude à ce niveau-là.
Merci beaucoup David Delortolari, notre monsieur football allemand. Également Aurélien de Vernois, notre consultant pour le football anglais. Merci à Nagy à la réalisation et toute l'équipe et également à nos auditeurs.